Ensemble sur Calade.
Du lundi au vendredi, de 12h12 à 13h, en direct sur Calade.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Calade.
Ensemble sur Calade.
Ceci est une rediffusion.
Et dans notre émission, on va parler sport avec Eddy Bernard, on va parler et écouter surtout de la musique avec Julien Pennec dans le Petit Bazar. Mais d'abord, on va passer un moment par téléphone avec notre invité du jour. Il s'agit de Jean-Marie Roche, il est maraîcher à Saint-Étienne-des-Oulières. Son exploitation s'appelle Un jardin dans les vignes et ensemble on va discuter de ce fameux jardin justement. Comment est-ce qu'il fonctionne, comment est-ce qu'il a été conçu et réfléchi. Et puis on va parler de la campagne de financement participatif qu'il a lancée pour faciliter une transition en maraîchage sur sol vivant. Il est déjà en biodynamie mais il veut aller plus loin. Comment est-ce qu'il fait et pourquoi? Pourquoi il a besoin d'une participation financière, il va nous expliquer. Mais avant ça, on commence l'émission comme d'habitude en musique. Notre invité fait pousser des fruits et légumes. On écoute Gaëtan Nonchalant nous chanter les légumes. On est ensemble sur Calade. Merci d'être avec nous.
Qui ne demande que ça.
C'était Les Légumes, texte et musique de Gaëtan Nonchalant.
Ensemble sur Calade.
Et tout de suite par téléphone, on est avec Jean-Marie Roche. Bonjour.
Bonjour.
Et on va parler de votre activité du Jardin dans les Vignes, qui est à Saint-Étienne-des-Ouillères, où vous y êtes maraîcher.
Oui, je suis un maraîcher, je suis installé à Saint-Étienne-des-Ouillères au milieu des vignes, sur 3 hectares de terre. J'en cultive environ 2 hectares,
ouais.
Avec une partie sous serre. Voilà.
Et alors, c'est un jardin, c'est une ferme, c'est des champs. Comment est-ce que vous appelez ça?
Moi, j'appelle ça un jardin. C'est une ferme où on fait pousser des légumes. J'ai quelques arbres fruitiers aussi, mais j'en ai pas assez pour faire de la vente de manière régulière. Mmh. Moi, je produis essentiellement des légumes, mais ouais, j'appelle ça un jardin.
Ok. Et j'aimerais bien qu'on parle un peu de votre parcours. Je crois que le Jardin dans les Vignes, ça a commencé en 2013. Et c'est la suite d'une reconversion professionnelle, c'est ça?
C'est ça, ouais. J'étais pas agriculteur avant. Je travaillais dans une autre branche. Et j'ai fait une reconversion professionnelle, donc j'ai fait une formation d'un an qui s'appelle le DPREA comme brevet professionnel responsable d'exploitation agricole. Bon, en fait, c'est une formation où on apprend tout ce qu'il faut savoir pour gérer une ferme, et puis on apprend aussi les cultures, donc comment on cultive. Donc moi, c'était une option au maraîchage, donc voilà, pour apprendre chaque légume, comment ça pousse, comment on s'y prend.
Ok.
Et ouais, c'était en 2013. Moi, j'ai mis 2 ans. Non, alors en fait, non, j'ai fait le DPREA en 2011 et puis j'ai mis 2 ans à trouver du terrain.
D'accord.
Et puis finalement, c'est un vigneron du Beaujolais, Romain Desgrottes, qui m'a accueilli sur ses terres parce que lui, il est en biodynamie et moi, je voulais travailler en biodynamie aussi. Donc voilà comment je suis arrivé à Saint-Étienne-des-Ouillères.
C'était le bon terrain. Et ça s'appelle un jardin dans les vignes. Ça veut dire qu'avant, c'était des terres où il y avait des vignes.
Ouais, c'était en vigne jusqu'en 2008. Les vignes ont été arrachées en 2008. Après, il y a eu 3 années de friche,
okay.
Pendant lesquelles mon voisin a fait passer les terres en bio. Donc moi, quand je suis arrivé, il avait fait aussi deux ans de suite du blé avant que je m'installe. Donc il y a eu 5 ans entre la vigne et mon arrivée.
Okay.
Et moi, j'ai pu prendre des terres qui étaient déjà certifiées bio.
D'accord. Donc,
voilà, c'était un gros plus.
Ouais. Ouais. Et le sol, du coup, il a eu 5 ans pour se reposer, se renouveler, si j'ai bien compris.
Ouais, alors il était déjà beaucoup mieux parce qu'il avait été déjà amendé un petit peu, mais moi, quand je suis arrivé, il était encore assez acide, donc il a fallu qu'on mette un peu de chaud pour relever le pH, et puis on amenait beaucoup de matière organique déjà à l'époque, parce que c'est des terrains assez pauvres, les terres à vignes. Donc,
ouais.
Pour faire du légume, on a besoin de terrains beaucoup plus riches, donc on est obligé d'amener beaucoup de matière, donc du fumier, du compost de déchets végétales, enfin voilà, des choses qui ramènent beaucoup d'éléments pour les légumes.
Et alors, en faisant des recherches un peu sur ce jardin dans les vignes, j'ai trouvé 2 mots qu'on entend souvent mais qu'on ne sait pas forcément ce qu'ils veulent dire. Biodynamie et agroforesterie. Biodynamie,
ouais.
Je crois que c'est un label. Est-ce qu'on peut rappeler si on a plein des labels avec le mot bio ou des
ouais, alors, déjà, pour être en biodynamie, il faut être certifié en bio. Donc moi, j'ai 2 certifications. J'ai la certification bio du label européen, donc comme tous les producteurs qui sont en bio actuellement. Mais en plus, moi, je suis en biodynamie. Alors la biodynamie, c'est presque une philosophie. C'est quelque chose un petit peu à part. On a une vision un petit peu globale du monde du vivant.
Mmh.
Et pour faire vraiment rapide, on va dire qu'en biodynamie, on s'intéresse aussi aux choses qu'on ne voit pas. Alors c'est un peu vague et flou. Je veux pas perdre les auditeurs, mais je vais donner un exemple qui est très parlant. Par exemple, si on prend des êtres humains, on peut s'intéresser à ce qu'on leur donne à manger.
Mmh.
C'est intéressant, hein, c'est de la physique, de la physiologie, tout ça. Mais si on s'intéresse à la notion d'amour, par exemple, qu'il y a entre 2 êtres, ça se voit pas, mais c'est important.
Mmh.
Donc nous, en biodynamie, on va avoir la démarche de s'intéresser à ce qui se voit pas aussi et qui est très important. Donc pour donner des exemples concrets, on va travailler, par exemple, avec le calendrier lunaire pour s'intéresser au rythme de la nature, au rythme du soleil, de la lune, des planètes,
ouais.
Qui vont avoir une influence sur les végétaux. Voilà, ces influences-là, elles sont importantes. Donc on les prend en compte. Après, il y a plein d'autres facettes de la biodynamie que je ne vais pas détailler ici, mais Mais voilà, il y a des gens qui passent, qui travaillent avec des préparations à base de plantes, plein de choses,
Et des techniques plutôt naturelles, du coup.
Ah ouais, non, oui, c'est des techniques naturelles à base de plantes ou de minéraux, voilà, ou juste sensoriels, ou juste voilà, faire attention au rythme de la nature. Et donc du coup, l'agroforesterie, ça rejoint un petit peu la biodynamie, mais bon, il y a un boulot à part entière avec les arbres. Donc là, l'agroforesterie, c'est plus d'implanter un nombre d'arbres assez important dans les jardins pour faire de l'ombre, parce que maintenant le climat devient de plus en plus rude, et donc c'est bien d'avoir de l'ombre pour les pousses en dessous. Mais aussi, les arbres, ils vont avoir la capacité de puiser dans le sous-sol des éléments qui vont remonter dans les feuilles, et les feuilles après retombent à la surface du sol et ramènent à manger pour ce qu'il y a en dessous. Donc, ça a aussi une belle utilité, ça permet aussi de remonter l'eau, de faire un climat plus frais, voilà. Ça a plein d'avantages. Donc l'agroforesterie, c'est vraiment implanter le plus d'arbres possible sur une zone qu'on cultive.
Ok, et créer de la coopération entre les plantes.
Voilà, donc moi je commence tout juste, hein. J'ai planté une cinquantaine d'arbres là, et je vais en planter de plus en plus. Mais déjà, on voit maintenant que les arbres commencent à prendre un peu de volume, on voit déjà un peu de changement sur le terrain.
Il faut qu'ils poussent pour faire de l'ombre. Ça prend des années, c'est ça?
Oui, par contre, ça prend du temps. Ouais. Moi, ça fait 5 ans. Les premiers arbres que j'ai plantés, ça fait 5-6 ans. Voilà, ça commence tout juste à faire un petit peu d'ombre. Ouais.
Okay.
C'est long. Ouais.
Et oui, vous avez parlé des dernières années qui étaient chaudes et sèches. J'imagine que quand on travaille dans la nature en permanence, on voit le changement climatique. Vous
ouais.
en êtes rendu compte sur les dernières années? C'est concrètement quand on est maraîcher, ça
Ah
ressemble à quoi?
bah là, ça devient difficile de pas s'en rendre compte. Moi, depuis que je suis installé, donc depuis 2013, je sais pas si j'ai eu une année normale en fait, en réfléchissant bien. Il y a eu énormément de sécheresse. Enfin, je pense que les gens s'en rendent compte. L'année dernière, on a eu la sécheresse la pire de tous les temps, depuis qu'on a des enregistrements météo. L'année d'avant, c'était l'inverse. On a eu l'année la plus pluvieuse de tous les temps, donc c'était l'excès inverse. Mais il y a plus d'années sans excès en fait.
Ouais.
Il y a quand même une très 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 grosse part de sécheresse. Maintenant, c'est assez rare qu'on ait de l'eau en fait en période estivale, quoi, sur les 6 mois d'été, ça devient vraiment très compliqué. Là, bon, je ne veux pas être catastrophique, mais les nappes sont vraiment au plus bas en ce moment, et je pense que cet été, ça va être difficile.
Ouais, ce que j'allais
mais
vous
bon,
demander,
maintenant, il n'y a plus une année facile, donc on fait comme on peut. Alors voilà, on trouve des systèmes avec des arbres ou avec des bâches pour mettre un peu plus d'ombre. Maintenant, je suis obligé de mettre des bâches sur les serres pour faire de l'ombre dans les serres, parce qu'il fait trop chaud sinon dans les serres.
C'est le...
voilà, on essaye de trouver des parades en arrosant beaucoup en goutte à goutte pour économiser l'eau au maximum.
Ouais.
Mais c'est vrai que ça devient vraiment difficile. Ouais.
J'allais vous demander, est-ce que vous avez une idée d'à quoi va pouvoir ressembler cet été? Mais j'ai l'impression que c'est difficile de savoir.
Ouais, c'est dur de se lancer dans un pronostic.
Ouais.
on prend pas trop de risques à dire qu'il va faire très chaud, parce que maintenant il fait très chaud tous les étés.
Ouais.
Voilà, moi quand j'étais il y a quelques années, quand j'étais plus jeune, quand il faisait 30 degrés ou 33 l'été, on crevait de chaud. Là maintenant, on arrive facilement à 40 presque tous les étés, quoi.
C'est ça. Ouais.
Donc, ça devient de plus en plus difficile. On fait ce qu'on peut. C'est pas juste que ça ira, mais voilà. En tout cas, c'est sûr qu'il y a du boulot à faire au niveau climat, et il y a sûrement plein de choses qui devraient être appliquées au niveau local. Moi, je milite beaucoup chez Alternativa, donc je suis un coucou aux copains d'Alternativa.
Et ben justement, je crois que dans Un jardin qui chante, vous faites quelque chose, vous créez du changement dans votre jardin à cause du réchauffement climatique. Je voulais passer à du maraîchage sur sol vivant. Alors expliquez-nous ce que c'est.
Ouais. Alors, Un jardin qui chante, c'est les copains de Belleville.
Pardon.
je crois qu'ils sont sur Belleville, mais il n'y a pas de souci, ils font aussi des choses bien. La question, c'était, du coup, j'ai perdu le fil.
Maraîchage sur sol vivant, qu'est-ce que ça veut dire?
Ouais. Alors, maraîchage sur sol vivant, c'est un mouvement là, qui apparaît chez les maraîchers. C'est ceux qui vont utiliser une technique où ils vont couvrir le sol avec de la matière organique. Donc c'est une technique on va travailler beaucoup moins, voire plus du tout le sol. Donc moi j'ai fait le choix de de ne plus travailler le sol. Donc depuis cette année, je n'utilise plus de tracteur pour travailler le sol. Ouais. Par contre, le sol est en permanence couvert par de la matière végétale. Donc alors après, il y a plein de techniques différentes. Moi, je mets du compost de déchets verts. Donc c'est du bois qui est broyé et composté pendant quelques mois avant d'être répandu sur le sol. Il y en a qui vont mettre du foin, de la paille, il y a d'autres techniques. Mais en tout cas, le principe, c'est d'apporter beaucoup de matière organique pour nourrir le sol. Le principe, dans les grandes lignes, c'est qu'on amène beaucoup de carbone, parce que le cycle du carbone, c'est ça qui nourrit le sol. Et donc, en gros, on amène du carbone au sol. Le sol va ensuite pouvoir faire son travail et nourrir les plantes. Et ensuite, les plantes vont pouvoir nous nourrir, nous. Et voilà, ça fait un cercle vertueux. Voilà. Donc c'est comme ça que j'applique le maraîchage sur sol vivant. D'accord. Mais c'est tout frais, là, je commence cette année, donc c'est pour ça que, en ce moment, du coup, j'en profite pour parler de...
Bah, bien
de
sûr, la j'allais y venir.
Je suis en train de faire une campagne de financement participatif pour financer, entre autres, du matériel, parce que, du coup, je change toutes mes techniques. Le fait de ne plus travailler au tracteur, on n'utilise plus des outils au tracteur, donc on est obligé de faire beaucoup plus de choses à la main.
Ouais.
Donc là, j'ai besoin d'acheter des outils à main, par exemple... je peux vous donner l'exemple du poireau. Avant, le poireau, je le plantais avec une planteuse qui était derrière le tracteur. Donc, je mettais des personnes derrière et puis qui plantaient les poireaux avec la machine. Ça faisait des sillons.
Ouais.
Là, maintenant, on ne pourra plus faire ça. Maintenant, on va faire des trous à la main. Et donc, du coup, j'ai besoin d'acheter des sortes de fourches. Ça ressemble à des grelinettes, ou pour ceux qui connaissent le jardin. Mais en gros, c'est des fourches avec des pics qui ressemblent à des pics de machine à hot dog. Et on monte dessus et ça fait des trous. Ensuite, on glisse les poireaux dedans.
Okay.
Du coup, faut faire ça à la main, c'est beaucoup plus long et voilà, j'ai besoin d'acheter 2-3 outils pour être à plusieurs pour aller plus vite. Quoi. Donc, y a ça et puis j'avais aussi besoin d'une chambre froide. Ça fait 10 ans que je travaille sans chambre froide et voilà, pour optimiser un petit peu la conservation des légumes, j'ai mis ça aussi dans le financement participatif. Alors du coup, le financement participatif, il est sur une plateforme qui s'appelle Bluebees,
ouais.
Comme des abeilles bleues en anglais, donc c'est bluebees.fr. Voilà. C'est des outils pour la vie, trois petits points du sol.
Ouais. Du sol. Et alors là, vous m'expliquez le maraîchage sur sol vivant, c'est plus de travail, il n'y a plus de tracteur pour vous aider. C'est quoi l'avantage? C'est quoi le...
Alors c'est vrai qu'on pourrait se dire, il arrête le tracteur, du coup ça va être plus physique. Alors effectivement, c'est plus physique, on fait beaucoup plus de choses à la main. Par contre, il y a des avantages et des inconvénients dans toutes les techniques. Et là, le gros avantage d'avoir le sol couvert en permanence, alors ce que j'ai pas dit, c'est que quand on cultive pas de légumes, on bâche avec des bâches plastiques le sol.
Mmh.
C'est-à-dire qu'on a mis beaucoup de matière en surface, et on met un plastique par-dessus pour qu'il n'y ait pas d'herbe qui se développe quand on n'utilise pas le terrain.
Okay.
Et en même temps, ça garde le terrain au chaud et surtout, ça garde l'humidité sous les bâches. Ce qui fait que le sol peut continuer de vivre, en fait, avec l'humidité qui reste. Voilà, il y a de la vie qui reste. Alors que quand on le couvre pas avec une bâche, il va sécher très vite et du coup, il n'y aura plus rien qui va se passer pendant l'été.
Okay.
Bref, nous, le gros avantage, c'est qu'en fait, cette technique-là, quand on enlève les bâches, on a très peu d'herbe. Du coup, on a beaucoup moins de désherbage à faire. Et en fait, quand on gratte le sol avec des outils, avec le tracteur, à chaque fois qu'on va travailler le sol, qu'on va remuer la terre, il y a des graines qui vont revenir à la surface et qui vont germer tout de suite et qui vont donner plein de plantes que nous, on n'a pas besoin parce qu'on fait des légumes, on ne fait pas des herbes. Et voilà, donc on gagne beaucoup, beaucoup de temps sur le désherbage et c'est là-dessus qu'on récupère, en fait, par rapport aux méthodes mécaniques avec un tracteur.
Ok. Et est-ce que...
Et puis, on a aussi un sol qui va être beaucoup plus vivant et donc qui va donner à manger aux plantes de manière plus linéaire. Alors, ça prend un peu de temps. Il faut 3-4 ans avant que le sol soit vraiment vivant et qu'il tourne tout seul, quoi, qu'on ait juste besoin d'apporter un petit peu de matière de temps en temps. Donc là, moi, c'est ma première année, donc c'est un petit peu compliqué. J'ai quelques petits loupés, mais d'ici 2-3 ans, en fait, le sol, il va être suffisamment riche pour donner à manger. Après, j'aurai plus qu'à planter et ça va pousser de manière assez linéaire.
D'accord.
Donc, il y a quand même des gros avantages à passer en maraîchage sur sol vivant, c'est pour ça qu'on s'y met. Mais oui, effectivement, il y a un côté physique et voilà, on travaille un peu plus à la main. Voilà.
Et au niveau de l'humidité, on parlait des étés qui pouvaient être secs. Est-ce qu'il y a besoin d'autant d'eau, de moins d'eau?
Eh ben, c'est bien, j'avais oublié de dire ça. Du coup, effectivement, c'est l'autre partie importante du maraîchage sur sol vivant, c'est qu'on va garder beaucoup plus l'humidité sous le paillage, sous la matière. Donc là, moi, ce que j'ai pu voir là cette année, j'arrose au je pense que j'arrose à peu près deux fois moins que l'année dernière,
Ouais.
parce que j'ai une couche de 4-5 cm de matière en surface de mon sol. Donc cette couche-là, elle va sécher assez vite en surface. Par contre, dessous, la terre reste humide beaucoup plus longtemps.
Et ça
Et
nourrit
donc,
les...
tout ce qui est enraciné, qui a plus de 5-6 cm de racines, arrive à capter l'eau dessous, beaucoup plus longtemps. Donc là, moi, je pense que je réduis presque de moitié. En moyenne, c'est plutôt autour de 30%, 30-40% de réduction de l'arrosage. Mais là, moi, sur le terrain, j'ai vraiment l'impression que je suis à presque 50% d'arrosage en moins. Donc ça, c'est vraiment un point important, d'autant plus que quand il fait très chaud l'été, ben, l'arrosage quand on arrose par-dessus, il y a une grosse part qui s'évapore. Donc si on arrose moins souvent,
Ouais.
on évapore beaucoup moins d'eau. Donc là, on gagne vraiment beaucoup.
Ok.
On est plus efficace, quoi.
Bon, ça a l'air de valoir le coup de faire plus d'efforts du coup.
Oui, ça vaut le coup.
Donc vous
Et si,
avez...
il y a un autre truc que j'ai pas dit, c'est qu'en fait, le fait qu'on ne travaille pas avec le tracteur, on n'a pas besoin de laisser de la place pour passer avec les roues du tracteur.
Ah
Donc du coup,
ouais,
on va
plus de
pouvoir mettre
surface.
plus de rangées, on va pouvoir mettre plus de lignes de légumes sur la même surface. Ce qui fait que sur une surface donnée, au lieu de mettre, je sais pas moi, 5 rangs de salade, je vais peut-être en mettre 7 ou 8, voire 10. Du coup, je vais avoir besoin d'arroser la même surface pour faire 10 lignes au lieu de 5. Et donc du coup, en fait, j'économise encore plus au niveau de l'arrosage parce que j'arrose plus de salade à la fois.
Ouais, donc
Enfin,
c'est
voilà,
tout bénef.
c'est
Donc
tout bénef, exactement.
pour participer à cette transition, on peut parler de transition. Il y a
Ah ben moi, je parle de transition parce que vraiment, au niveau du travail, je change
c'est un gros changement.
beaucoup de pratiques. Ouais, c'est un gros changement. J'ai l'impression de m'installer une nouvelle fois, même si ça fait 10 ans que je suis installé sur le terrain aussi. J'ai l'impression de me réinstaller une nouvelle fois. Donc, ouais, c'est une transition,
Donc il reste
une vraie transition.
jusqu'à lundi prochain pour participer à la campagne de financement, c'est ça? Ça se termine le 19?
Oui, il y a encore une semaine. C'est fort probable que je rallonge un petit peu de quelques jours. C'est possible que je rajoute une semaine parce que j'ai mis beaucoup de temps à communiquer. En fait, je suis très pris par le travail au jardin
Bien sûr.
et la communication, c'est pas mon métier. Donc du coup, les gens commencent à être bien au courant. Là, la campagne est en train de pas mal monter. Là, à l'heure actuelle, on en est à la moitié du montant. On est pas loin des 8 000 euros. L'ensemble du matériel qui a financé, ça représente 16 000 euros. Bon, dedans, j'ai aussi mis le prix de la vidéo. J'ai un collègue vidéaste qui est très compétent, qui m'a fait une jolie vidéo. D'ailleurs, s'il y a des gens qui cherchent un vidéaste compétent, il faut aller voir la vidéo. Et il y a les liens du collègue qui est vidéaste sur la page. Donc, j'ai mis aussi le prix de la vidéo. Voilà, il y a quelques frais que j'ai rajoutés. J'ai mis aussi le prix du compost parce que quand on passe en maraîchage sur sol vivant, on a besoin de faire un gros apport de compost. Donc là, sur les 2 hectares, j'ai apporté 200 tonnes de compost
Ah oui.
végétal. Ça fait une somme quand même importante. Voilà, donc j'ai mis une somme aussi dans le financement participatif pour m'aider à payer l'apport de compost de la
Ok.
première année. Voilà, et tout ça, c'est sur bluebees.fr. Vous trouverez une page, mais il y aura le lien, je pense, sur la page
On le mettra
de Radio Calais.
sur notre site internet et puis de toute façon sur les réseaux sociaux, on tape un jardin dans les vignes et on vous trouve assez facilement.
Ouais, un jardin dans les vignes à Saint-Étienne-des-Oulières. Ouais.
Et je voulais vous demander où est-ce qu'on trouve vos légumes? Parce qu'on parle
Ah ben
de ce que
alors
vous
du
faites,
coup
mais...
oui, c'est une bonne question. Je vends les légumes à la ferme le mercredi de 16 h à 19 h. Et puis je vends aussi le vendredi, quasiment sur les mêmes horaires, sur une autre ferme qui s'appelle le Domaine des Terres Vivantes à Blacé. Et c'est de 16 h à 19 h 30
D'accord.
le vendredi. Et en
Et
fait, à chaque fois, je vends en direct aux gens qui viennent et je fais aussi des paniers. J'ai une AMAP que je livre à chaque fois dans les deux fermes, donc chez moi à la ferme aux Oulières et puis au domaine des terres vivantes à Blacé le vendredi.
donc tout en vente directe, ou
Tout en
presque,
vente directe, j'ai une
avec la
petite
map.
part, j'ai 10% à peu près de mon chiffre que je vends en magasin bio et essentiellement au magasin Saveur Nature à Villefranche.
D'accord.
Voilà, c'est le magasin avec qui je travaille le plus parce qu'ils sont honnêtes sur les prix, ils payent bien les producteurs. Voilà.
Ça aussi, ça pourrait faire un sujet d'émission, la
Exactement.
rémunération des producteurs. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, de nous avoir expliqué comment ça
Ben,
fonctionnait.
merci à vous.
Et
Merci à vous de relayer les infos.
puis à très bientôt, au plaisir.
À bientôt. Au revoir.
Ensemble sur Calade.
Rediffusion.
Allez, on reste dans le thème du jardinage, l'occasion pour moi de vous faire écouter un ovni musical. Imaginez un chanteur de métal allemand qui découvre une chanteuse de variété française et qui lui dit « J'aime bien ta voix, est-ce que je peux chanter avec toi ?» Et ça donne le morceau « Le jardin des larmes » de Zaz et Till Lindemann, le chanteur du groupe Rammstein.
Chaque soir, j'entre avec toi dans ce petit jardin de larmes. Chaque nuit, je pose mon cœur dans ta poitrine de fleurs. Hier, ton baiser fut de miel, mais les fruits ont un goût de sel.
Bonjour tristesse, tous les jours je me sens si seul avec toi. Je te déteste, mon amour, oh oui ta punition, c'est moi.
Je suis triste toute la journée, du petit matin jusqu'au soir. Pas un rossignol pour chanter, et tout ça à cause de moi. La 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 la, pleure les arbres avec moi. La 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 la, pleure nos âmes tout bas. Chaque soir, j'entre avec toi dans ce petit jardin de larmes. Je pose mon cœur dans ta poitrine de fleurs. Hier ton baiser fut de miel, mais les fruits ont un goût de sel.
Ensemble sur Calade.
Instant sport.
Allez, pour nous parler sport, et bien c'est évidemment Eddy Bernard qu'on retrouve tout de suite. Bonjour Eddy.
Eh bien bonjour Mathieu, mais c'est un plaisir effectivement de se retrouver.
Qu'est-ce qui s'est passé ce week-end? Je crois que le gros événement c'était le Tour du Beaujolais cycliste.
Absolument, on ne peut rien te cacher en effet. Un gros rendez-vous dorénavant bien inscrit dans le calendrier au plus haut niveau parce qu'il y avait des équipes non seulement nationales évoluant dans l'élite amateur, mais également des équipes professionnelles et puis des équipes étrangères. Donc ce tour cycliste du Beaujolais 2023, il a été évidemment le grand événement du week-end et il n'a pas failli à sa réputation, ça a été vraiment une formidable course.
Alors ça a commencé vendredi, le premier événement c'était quoi et comment ça s'est passé?
Alors c'était la première étape, vendredi 9 juin, pour 138 km, les coureurs sont partis du Péréon pour rallier Thésée avec un parcours très vallonné et très, 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 très large pour permettre à toutes sortes de coureurs de s'exprimer, en particulier les punchers, on les appelle comme ça, ceux qui sont un petit peu tout terrain, n'est-ce pas? Et au terme des 138 km de course de la première étape, donc avec tout de même de belles choses, comme le col de Saint-Cyr-le-Chatou, le col du Chatou derrière, et puis la côte de Ouin, ou encore la côte du Croix de l'Orme, c'est le coureur de l'équipe professionnelle OCF Team Artus Jalado qui s'est imposé en solitaire, avec 5 petites secondes seulement sur la ligne, devant l'ancien Caladois Sten Van Gucht, que tu connais très très bien Mathieu, et du côté du Vélo Club Villefranche-Beaujolais, organisateur de l'événement, on pouvait être très fiers de voir Théo Thomas, le jeune Théo Thomas, meilleur jeune d'ailleurs de l'épreuve, franchir la ligne à la 4e place, à 9 secondes seulement du vainqueur. Donc cette première étape avait bien lancé l'affaire.
Bon, il y avait 2 étapes samedi, comment ça s'est passé?
Absolument, un contre-la-montre individuel de 10 km 200 le matin entre les 2 établissements de Vinescence, c'est-à-dire de Belleville, de Saint-Étienne-des-Ouillères à Belleville, où sont là-bas les 2 caves. Donc c'était un joli clin d'œil autour du Beaujolais. Et sur ces 10 km-là, ça paraît court, mais des écarts, on peut en faire, Mathieu, lorsqu'on est effectivement un gros rouleur puissant, comme Quentin Beza, le coureur du SCO Dijon, qui s'impose pour 2 petites secondes sur Clément Carizet,
qu'on connaît bien, évidemment, en Calade et dans le Beaujolais, un peu, lui aussi, quelque part, l'un de nos pensionnaires, mais qui court dorénavant sous les couleurs de Charvieux-Chavagneux. Et il s'empare, à l'issue du contre-la-montre individuel, donc, du maillot de leader. Les meilleurs Caladois ont eu un peu plus de mal, puisque Nicolas Aulas, le tout jeune coureur du VCVB, termine 25e à 51 secondes, et Anthony Chamrat-Dumont, fer de lance du VCVB, à 52 secondes, pour te dire un petit peu qu'il y a eu quand même de gros écarts sur cette épreuve matinale. Et l'après-midi, eh bien, on retrouvait une épreuve en ligne sur 92 km. On partait de Saint-Étienne-des-Ouillères pour faire un tour, comme ça, et on faisait 5 tours de circuit, évidemment, dans notre beau Beaujolais. Et eh bien, c'est un Bressan, figure-toi, qui s'est imposé, Mathias Le Turnier, juste devant Luca Bento du SCO Dijon encore. Les Dijonnais ont été beaucoup en évidence là tout au long de du tour du week-end. Et puis Quentin Beza, lui, termine troisième. Hein. Il remet ça à 5 secondes seulement. Le Caladois Anthony Chamrat-Dumont était dans le coup et il règle le sprint du peloton qui est arrivé à 7 petites secondes seulement pour finir septième. Donc c'est vraiment une belle montée en régime de notre fer de lance. Voilà pour samedi. Mais Clément Carizet a gardé évidemment le maillot de leader.
Et question à deux balles, ceux qui faisaient le contre-la-montre le matin ont fait l'autre épreuve l'après-midi.
Mais tout à fait, Mathieu. Hein, sinon, c'est abandon.
D'accord.
Hein, une course par étape, il faut faire toutes les étapes. Hein, tu ne peux pas les choisir.
Très bien.
Non, mais pour... précision intéressante, c'est vrai.
Ça évalue mon niveau de sport.
La troisième... Il faut être pédagogue, hein, parfois, Mathieu.
Mais c'est important.
C'est important.
Troisième étape, c'était dimanche, donc quatrième, pardon.
Alors, la quatrième, du coup.
Oui.
Alors la quatrième, c'était une épreuve très classique, individuelle, sur 144 km, avec, tiens-toi bien, de belles ascensions, 2000 mètres de dénivelé positif,
hein, ah oui.
Déjà à pied, je ne sais pas si tu vois, mais en vélo, de Saint-Georges-de-Renins pour rallier Fleury, avec deux cols mythiques, d'abord la côte des Ardillas, hein, ça fait très mal aux jambes en début de parcours, et puis le col de Cry tout de même, avant de filer vers l'arrivée à Fleury, eh bien, c'est encore un Dijonnais, Kevin Avoine, qui s'est imposé parce que le leader a contrôlé pas mal la course. Il aura laissé une, deux minutes d'avance régulièrement, mais pas plus. Et c'est surtout Thomas Morichon, le bisontin, qui a secoué un peu le peloton, là, qui a failli faire tout péter, comme on dit. Mais il est un peu court, il termine à 2 secondes. Et le leader, lui, a finalement passé une après-midi relativement tranquille, même s'il a fallu s'employer avec son équipe. Ça a permis à Anthony Chamrat-Dumont, une nouvelle fois, d'aller chercher un beau classement. Quatrième, c'est dommage, c'est au pied du podium, 11 secondes. Et puis le jeune Théo Thomas à 17 secondes. Voilà un petit peu pour les différentes étapes. Alors, le bilan final, hein, parce que je te devine impatient, mais tu l'as deviné, eh bien, c'est bien Clément Carizet qui a reçu le bouquet du vainqueur de cette nouvelle édition du Tour du Beaujolais. Il succède à Tao Kéméré qui n'a pas pu défendre son titre. Et Dieu sait s'il aurait pu se faire plaisir sur un parcours comme celui-là. Mais c'est comme ça. Il a 21 secondes d'avance au final, au général, sur le coureur pro du team Wagner, Clément Braz-Afonso. Artus Jalado, vainqueur du premier jour, lui est troisième du général à 33 secondes. Le premier Caladois, eh bien, c'est le jeune Théo Thomas, 9e à 1 minute et 11 secondes. C'était tout de même pas si mal parce que nos loups étaient avec une équipe tout de même très amoindrie et ils ont quand même fait honneur au maillot rouge des loups. Voilà pour le cyclisme.
Bon, bravo aux loups. Ça c'était l'événement majeur du week-end, mais il s'est peut-être passé d'autres petites choses. Je sais que les saisons...
Écoute, deux résultats qui peuvent nous intéresser en effet, parce que toujours dans le Beaujolais et toujours au Péréon, hasard du calendrier, il y avait un trail, le magnifique trail, la cinquième étape d'ailleurs du Trail Tour Beaujolais 2023, avec de sérieux concurrents, hein, dans ces différentes épreuves. Alors, c'était la cinquième étape, c'était le Beaujolais Village Tour qui partait donc du Péréon et qui se promenait lui aussi sur nos monts du Beaujolais avec beaucoup de dénivelé. Et effectivement, ce sont deux ultra-trailers très chevronnés et très endurants qui ont trouvé moyen de se partager la victoire. Alors, la petite histoire retiendra que c'est Arnaud Gagli qui a été déclaré vainqueur, mais dans le même temps que Sébastien Mussard, son compagnon, donc d'échapper là encore, mais cette fois évidemment avec leur basket, deux athlètes chevronnés donc, qui remportent dimanche 11 juin cette étape. Et puis il y avait encore un peu de sport collectif, même si tous ont terminé leur saison presque, c'est le motoball. Je sais que c'est un sport qui t'amuse beaucoup,
ouais.
Et qui est très écologique. Alors on a un championnat avec nos deux deux équipes locales. Saint-Georges-d'Ornans en élite 1 qui accédait à ce niveau et qui a du mal. Ils ont été battus dans l'Aube sur le terrain du Suma de 3-1. Attention, ils sont avant-derniers après 7 journées de championnat. Et c'est pas mieux pour Villefranche qui est au niveau de l'élite 2 qui a pris 4-0 sur le même terrain et qui est dernier. Donc ça va pas fort pour nos motards. Hein.
D'accord.
Bon, espérons qu'ils se ressaisissent pour la suite et de la saison.
Quand ils sont en déplacement, ils rentrent en moto après
Ah, voilà une excellente question. Alors, je pense que si c'est le cas, c'est pas avec les mêmes montures.
Hein, d'accord.
Parce que c'est pas terrible sur la route, ce type d'engin. Non, mais c'est vrai, c'est caréné spécialement pour jouer au foot avec. Donc, tu imagines un petit peu à quoi peut ressembler la machine. Pas génial pour faire 200 ou 300 km.
Ouais, hein. J'imagine.
Bon, écoute, parlons d'avenir, parlons de la suite, si tu le veux bien.
Ben oui, qu'est-ce qui se passe ce week-end? Est-ce qu'il y a encore des rendez-vous sportifs à annoncer?
Alors, c'est vrai que, bon, la plupart, tu l'as compris, des championnats de sport co sont terminés, bien entendu. Sur les sports individuels, là, on a un week-end un petit peu creux, il faut le reconnaître, même s'il y aura effectivement du cyclisme, du tennis ou encore de l'athlétisme, voire de la natation un peu partout. Mais ce week-end, Mathieu, je voulais attirer ton attention sur le fait que beaucoup d'organisations sportives, de clubs, amateurs, ou pas d'ailleurs, préparent la saison à venir. Alors, peut-être de jeunes pratiquants ou pratiquantes veulent s'inscrire, découvrir une pratique. Tout le monde connaît, certes, le football, le rugby, le basket ou le handball, mais il y en a plein. Alors, les clubs mettent en place, là, sur les week-ends qui vont venir, beaucoup de réinscriptions et surtout d'opérations de type portes ouvertes ou d'initiation, tu vois, pour permettre, pourquoi pas, à de jeunes nouvelles recrues de se prendre de passion pour les nombreuses disciplines qui sont proposées par chez nous, parce qu'on a une région particulièrement sportive, Mathieu. Alors, tiens, tu sais pas, ce que je te propose, c'est qu'on ne peut pas citer toutes les opérations qui vont se dérouler dans les prochains week-ends. Alors, moi, je te propose, pour une fois, de mettre un peu en évidence le sport féminin et d'orienter, pourquoi pas, nos jeunes filles, ou moins jeunes, d'ailleurs, ça n'a pas d'importance, qui veulent s'essayer à une pratique à la fois très sportive, très exigeante, mais très esthétique. C'est la gymnastique rythmique, sportive, comme on l'appelait par le passé, puisqu'aujourd'hui, on n'appelle plus ainsi, et c'est tant mieux, d'ailleurs. Donc, sachez que les Caladois du club local, donc la GRS caladoise, comme on l'appelle ici, eh bien, elle propose samedi 17 juin au gymnase du Montet toute la journée, mais il faut s'inscrire d'abord, hein, de manière à pouvoir bien organiser tout ça. Donc n'attendez pas, inscrivez-vous pour aller découvrir cette pratique qui est tout à fait complète, qui est vraiment excellent pour la santé des jeunes filles. Alors allez-y et inscrivez-vous. Je donne rapidement l'adresse mail où vous pouvez envoyer votre demande pour vous inscrire. C'est très simple. C'est secrétaire en minuscule .grscaladoise, c'est en un seul mot, @gmail.com. Voilà. Et puis l'adresse, on la retrouvera si vous réécoutez le podcast. D'accord?
Et ben voilà, parfait. Pourquoi pas? Merci beaucoup, Eddy, pour cette bonne idée et puis pour toutes les informations que tu nous donnes chaque semaine.
Et oui, et puis surtout, faites du sport, faites tous du sport, préparez-vous pour la nouvelle saison. La semaine prochaine, si tu le veux bien, Mathieu, nous ferons un dernier petit bilan de la saison 2022-2023 qui a été vraiment excellent pour notre sport, notre territoire, qui est plus que jamais un territoire de sport.
Parfait, merci beaucoup Eddy, le rendez-vous est donné. À la semaine prochaine.
À bientôt.
Ensemble sur Calade.
Ceci est une rediffusion.
Allez, on enchaîne sans autre forme de transition avec Julien Pennec et son petit bazar.
Ensemble sur Calade.
Le petit bazar.
Salut Mathieu, bonjour chères auditrices et auditeurs. Le week-end dernier, j'étais au festival Manouche d'Isenheim en Alsace. La musique de Django Reinhardt et la musique populaire Manouche, des bœufs de partout, la générosité de ces musiciens et de cette communauté. Et pour commencer cette chronique, voici Monsieur Django Reinhardt. cultissime nuage de Django Reinhardt, guitariste de génie qui a révolutionné la guitare. Du 22 juin au 25 juin se déroule la grande messe du jazz et jazz manouche, le festival Django Reinhardt au château de Fontainebleau. Je vous conseille le camping, musique garantie 24h/24, et on pourra aussi retrouver Fanu Toracinto, guitariste corse. C'était Fanu Toracinto, accompagné à la pompe de Benji Winterstein et William Brunard à la contrebasse, la perle de la rythmique manouche. Et pour terminer, je voudrais vous faire écouter deux formidables guitaristes et musiciens, deux amis, Yuri et son fils Gianito Félix, accompagnés de Thierry Frascon à la contrebasse, sur une composition de Yuri, voici Petit Chemin du groupe Un Soir de Swing. Bel après-midi à tous.